débat du jour.
François Bernard.
Bonsoir et bienvenue à l'écoute du débat sur RFI. Demain se déroule à Paris le Conseil national Les Républicains et l'Assemblée générale de la Belle Alliance populaire qui est lancée par le Parti socialiste. Droite et gauche modérées en France dominent en alternance la scène électorale depuis un demi-siècle. Mais les divisions, les luttes internes, le désamour des électeurs leur ont fait perdre une grande part de leur influence, même s'ils conservent l'essentiel des pouvoirs politiques dans le pays. Alors, est-ce que droite et gauche peuvent trouver un nouveau souffle et répondre aux demandes de leur électorat, droite et gauche modérées? Parti socialiste, les Républicains, quel avenir pour les partis traditionnels? On va en parler avec nos deux invités de ce soir. Je vous les présente tout de suite. Frédéric Dabi est directeur général adjoint de l'IFOP, qui est l'Institut français d'opinion publique. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et Olivier Roucan est, lui, politologue, enseignant, chercheur en sciences politiques. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage récent qui s'appelle « Développement durable des territoires ». C'est chez Gallinot. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Alors, pourquoi, c'est la première question que je me suis posée en préparant ce débat, pourquoi l'offre politique traditionnelle représentée par les partis qui font l'alternance en France, pourquoi cette offre est-elle devenue si peu attirante pour les électeurs? Je commence avec vous, Frédéric Dabi.
Question très large. Il y a d'une part la crise du résultat que connaissent les partis de gouvernement, ces partis lorsqu'ils sont au pouvoir, et c'est vrai que les deux derniers quinquennats qui ont, pour le dire très rapidement, largement déçu et à gauche et à droite, participent de cela. Et puis, il y a des jugements très sévères vis-à-vis des organisations partisanes qui sont vues comme des objets qui ne sont plus adaptés à l'époque. J'ai retrouvé une enquête IFOP JDD assez récente, hein, août 2014. Pour 82% des Français, il y a peu de différence gauche-droite. Ils ne sont pas adaptés à la situation actuelle du pays. 85% d'entre eux, 85%, hein, on est vraiment sur une très large majorité, éprouvent un sentiment de déconnexion. Ils ne sont pas proches des réalités quotidiennes des Français. Et seuls 37% les jugent utiles. Donc il y a ce constat. Et il y a aussi un élément d'accélération du sentiment de déclin des partis politiques. Pendant très très longtemps, soutenir un parti ou être surtout adhérent d'un parti, ça servait à désigner son candidat à l'élection présidentielle. Et la primaire a un impact en termes de dépossession des partis politiques de ce dernier pouvoir qu'ils avaient. Maintenant, les Français les jugent quand même utiles à un niveau non négligeable parce qu'ils font partie de l'arsenal démocratique traditionnel.
D'accord. Alors, lui encore, d'autres raisons à cette liste déjà.
Oui, à cette liste déjà importante de facteurs et sur la préoccupation, le sentiment d'éloignement finalement. Et c'est quelque chose d'assez ancien, hein, le fait d'être jugé éloigné des préoccupations à ce niveau, c'est assez ancien. Donc j'allais dire que à partir des années 90, il s'est installé quand même un sentiment non seulement d'éloignement, mais le fait que cette machine élitaire, cette machine des dirigeants politiques, mais également finalement économiques, eh bien, ne se préoccupait pas vraiment des injustices les plus flagrantes qui sont durement vécues par ces chômeurs. Le pays est enquisté dans un chômage. Donc, il y a des facteurs qui sont sociaux, qui sont économiques, qui constituent l'arrière-plan de ce discrédit aujourd'hui devenu vraiment très important, trop important, du politique, qui fait que la démocratie, selon de plus en plus d'enquêtés, fonctionne mal et les taux là aussi sont élevés désormais et de façon récurrente. Et ensuite il y a un fait plus politique au sens d'organisation du jeu. Les partis politiques traditionnels sont, comme toute une partie de nos institutions d'ailleurs, organisés désormais, j'allais presque dire hors sol, c'est-à-dire que c'est un monde en soi. La vie des partis politiques. Et c'est pas simplement à Solferino ou dans la maison mère, si vous voulez, c'est tout simplement dans les sections. Si vous allez vous promener dans un quartier et que vous rentrez dans un lieu de réunion d'un parti politique, vous n'êtes pas déçu, hein. Vous n'avez pas un panel représentatif, pour aller comme les sondeurs, des Français d'aujourd'hui. Mmh. Et ce décalage, il finit par être véritablement plus que gênant. Aujourd'hui, on a besoin d'une régénération, d'un renouvellement de la vie politique. L'Espagne nous a précédés. même si on en voit les limites. Mais le travail qui a été fait à partir des indignés jusqu'à Podemos est très intéressant à observer, analyser.
D'accord, ça c'est pour le diagnostic, on verra pour les remèdes dans un petit instant. Vous avez évoqué, Frédéric Dabi, les primaires en évoquant le fait que ils accélèrent peut-être la dégradation des réputations en montrant les divisions au grand jour, en donnant libre cours aux ambitions, c'est ça qui...
Alors, je ne critique pas l'objet primaire qui a été pendant très longtemps un OPNI, un objet politique non identifié. Je suis plutôt sur la transition où à une certaine époque, François Mitterrand en 81, en 88, Jacques Chirac ont été désignés par leurs partis respectifs. C'était bien sûr des élections courues d'avance, mais c'était comme ça. Il y a eu un premier tournant, ça a été l'élection... La primaire interne restreinte, si je puis dire, du Parti socialiste en octobre 95. Ou non, octobre 2006, où, oui, il y a même eu, vous avez raison de le dire, 95, où après le retrait, alors ça paraît peut-être loin, de Jacques Delors, qui paraissait comme le candidat sûr du Parti socialiste, il y a eu une sorte de primaire, mais c'était les militants qui avaient désigné l'adjustement face à Henri Emmanuelli. 2006, c'est un premier tournant. Puisqu'il y a l'histoire, plutôt l'affaire des adhérents à 20 euros, qui fait que la désignation, le choix entre Ségolène Royal, Dominique Strauss-Kahn et Laurent Fabius est sorti, stricto sensu, du cadre partisan. Et ça a été accéléré en 2011 avec cette primaire citoyenne qui a quand même très bien marché pour une première grande élection interne, ou plutôt sortie de l'interne, où il y a eu presque 3 millions de votants. Et là, la primaire des Républicains, alors que je pense qu'Olivier Rocan le dira mieux que moi, ce n'est pas la culture de la droite, ces primaires. On est plutôt sur la culture du chef, une culture bonapartiste, de Chirac à Sarkozy. Il semble, dans les enquêtes que l'IFOP mène pour l'instant, qu'il y ait sans doute peut-être un nombre de participants plus important. Ça signe, il y a bien sûr des effets pervers de la primaire, c'est peut-être pas le lieu aujourd'hui d'en parler, la logique de surenchère, de distinction, l'hypertrophie de l'offre, on en a 13 ou 14 candidats des primaires, ça sera un peu écrémé sans doute à la rentrée, mais en tout cas, ça signe la fin du pouvoir du parti politique, des adhérents, de désigner leur champion pour l'élection matrice de la 5e, en l'occurrence l'élection présidentielle.
Et Olivier Rocan, sur cet aspect-là,
la primaire, oui, bien, c'est deux tours de plus pour la même élection, qui en compte donc désormais quasiment six, parce que vous avez un mois d'intervalle ensuite les législatives. Donc je ne sais pas si cela contribue à l'amélioration de la qualité démocratique d'avoir en quelques mois, pour attribuer grosso modo le même pouvoir, six élections, parce qu'ensuite, bien, cela se paye quand même par justement un sentiment pendant la durée du mandat qui suit d'éloignement, surtout s'il n'y a pas de référendum durant cette période, et donc ça enrichit, si vous voulez, l'expression des mécontentements, à la fois dans les sondages permanents de popularité qui ne cessent de baisser pour le pouvoir dès qu'il est élu, de plus en plus tôt, et puis ensuite les mouvements de rue, et globalement la perte de confiance qui est enregistré dans nombre d'enquêtes. Donc, la primaire, ça renforce l'instantanéité démocratique. C'est un peu la démocratie, j'allais dire, consumériste. Mmh. Alors, j'y vais un peu fort, vous allez me dire, parce que, somme toute, les enquêtés trouvent ça très bien. Mmh. Ils approuvent massivement. Oui. Et j'ai noté un sondage de l'IFOP récent, vous me direz si j'ai bien noté, qui expliquait que, d'ailleurs, c'est une position ambiguë, semble-t-il, l'opinion, puisque un candidat suffisamment remarqué qui ne respecterait pas le résultat des primaires ou qui débarquerait dans la course pour jouer son premier tour malgré le résultat des primaires serait légitimé par les sympathisants eux-mêmes, ce qui fait que c'est quand même compliqué cette affaire. Et on apprécie les primaires, mais en même temps, si quelqu'un respecte pas le jeu, bah il sera pas forcément disqualifié par la suite. Donc c'est un instrument qui me semble finalement, par rapport à la force et à la profondeur des enjeux qui se posent aujourd'hui à la démocratie, secondaire.
Ouais. Mais incontournable, manifestement.
Il y a peut-être un dernier point qu'on n'a pas évoqué. Qu'est-ce que c'est que la logique de la primaire ? C'est que la logique de la préparation du programme présidentiel, de l'offre programmatique qui était avant le monopole du parti, passe à des écuries présidentielles. Celle de Nicolas Sarkozy, celle de Bruno Le Maire, celle d'Alain Juppé, celle de François Fillon. Il y a demain, je crois, donc cette rencontre des Républicains où Nicolas Sarkozy voulait présenter des offres, des éléments d'axe programmatique pour 2017. Je crois que ses principaux adversaires ne seront pas là. On voit très bien que ce qui était avant un des leviers d'action de préparation du retour ou de l'entrée au pouvoir d'une force politique, c'était le travail de préparation. Les 110 propositions du Parti Socialiste en 80 avaient été faites, rue de Solferino. Là, ça sort encore de la logique partisane.
En même temps, finalement, ces primaires avivent les questions de personnes pendant un temps. Mais sur le programme, on dit déjà qu'il est parfois délicat et difficile de séparer les programmes d'une certaine gauche et d'une certaine droite. Mais au sein d'un même ensemble, d'un même courant, ce ne sont pas les programmes qui divergent à ce point que Nicolas Sarkozy et Alain Juppé se trouveraient à deux pôles opposés. Donc les programmes sont tellement proches que c'est bien une question ensuite de personne, de caractère qui va, et donc de personnalisation de la vie politique qui va animer ces primaires. Ouais. Donc cela relègue encore davantage le débat de fond et d'idées, cette affaire.
Alors je voudrais aborder juste ce point, parce qu'on entend dire que les politiques sont aux ordres de l'économique. Hein, c'est quelque chose qu'on entend dire souvent. Et que leur marge de manœuvre finalement est relativement limitée. Quelle est la réalité, selon vous, de cette affirmation, Frédéric Dabi?
C'est vrai qu'il y a en France ce pouvoir magique du politique depuis en fait la monarchie, depuis les rois en fait thaumaturges, qui est que le politique tord le bras de en fait, l'économie. On connaît la phrase l'intendance suivra, et on sait très bien que voilà, on n'imagine pas le général de Gaulle, voire Georges Pompidou. Axer tout leur discours sur des questions économiques. Maintenant, il y a une logique de crise, il y a une logique, et c'est ça, on revient à votre question originelle, François, qui est pourquoi la légitimité des partis politiques, du pouvoir, est de plus en plus sapée. On le voit avec cette abstention énorme qui dépasse souvent 50% aux élections intermédiaires. C'est parce que les Français ont le sentiment que le politique a de moins en moins de marge de manœuvre, que la parole politique, sa capacité à avoir des résultats, est très très fortement challengée, questionnée par l'économie.
Mais est-ce que ce sentiment-là a une réalité?
Oui, on le voit objectivement. Alors, citons les enquêtes de popularité, et Olivier Rocoin avait raison de le rappeler. Il y a vraiment les présidents d'avant la crise qui ont eu très souvent une popularité pendant tout leur mandat majoritaire ou presque, y compris Giscard d'Estaing, et puis des présidents de crise qui, hors période de cohabitation où François Mitterrand d'un côté, Jacques Chirac de l'autre, se refont une santé en termes de popularité, on a des chutes continuelles, presque perpétuel. Nicolas Sarkozy était descendu à 26-27 à la fin de son mandat. François Hollande en est à 14%. C'est même pas du vote, c'est de la simple satisfaction, parce que on a le sentiment qu'il n'y a pas de résultats sur les questions économiques et sociales, et que dans le monde global dans lequel on vit, alors c'est aussi, alors on va pas peut-être rentrer dans ce sujet, la défiance vis-à-vis de l'Union européenne, la défiance vis-à-vis de la mondialisation, c'est que la France est perdue et ne peut plus n'est plus autonome.
C'est d'actualité, on y reviendra peut-être en fin de débat. Olivier Rocoin, sur ce point, est-ce que le pouvoir peut se conquérir, s'exercer en dehors ou même contre le système économique ambiant? On a l'impression que non.
Là, c'est la phrase boomerang sur la finance ennemie. Hein. Une campagne peut se gagner, ou dans tous les cas, cela peut contribuer à faire gagner un candidat, mais ensuite, c'est dur à assumer. Et on avait eu Nicolas Sarkozy et la question du travail. Donc, à chaque fois, nous avons ce genre de décalage qui deviennent des hiatus une fois que la personne est élue, qu'elle doit gouverner. Ouais. En même temps, il y a quand même un rapport de force au sein de l'Union européenne qui change, j'allais presque dire, peut-être en ce moment d'ailleurs, avec 4 ans de retard, et qui pourrait permettre à François Hollande, mais il est bien tard, de faire entendre davantage sa voix social-démocrate au sein des institutions de l'Union, avec suite à ce qui s'est passé. Hein, mais si vous voulez, nous avons un vote qui reste donc national, avec une culture politique, en plus nous d'un État fort, d'une puissance publique qui peut changer l'économie, alors que désormais ces questions, le moins qu'on puisse dire, est qu'elles se règlent bien dans le meilleur des cas à Bruxelles, et souvent bien au-delà même.
Oui, alors c'est très intéressant, parce que là, et c'est pas lié au Brexit, mais ça a été révélé par le Brexit pendant très longtemps, pendant une campagne présidentielle. La France se regardait au fond des yeux, c'était notre folklore. On ne parlait plus d'Europe, on ne parlait plus du monde, on ne parlait que de la France. Rappelez-vous la phrase de François Hollande, la France n'est pas le problème, la France est la solution. C'est ce qu'on a eu, cette glorification du pays à chaque campagne présidentielle où on ne parle jamais d'Europe, jamais de questions internationales ou presque. Un des rares moments où on a parlé des questions internationales, c'est le débat de 95 entre Jacques Chirac et Lionel Jospin d'Entre-deux-Tours, où le seul moment où on parle d'Europe et du monde, c'est Jacques Chirac qui cite le poète russe Lermontov sur l'ogre tchétchène qui va manger le petit enfant russe. On est vraiment sur de l'anecdote. Là, les Français, face à la crise migratoire, face au terrorisme, ont peut-être de plus en plus pris conscience que le cadre national n'était plus suffisant et que les solutions pouvaient être collectives et l'Europe peut s'imposer comme solution, ce qui n'empêche pas le scepticisme très fort en France avec cette très forte présence de la France du non sur vis-à-vis de la question européenne.
Alors, retour en France parce que les Républicains, le mouvement Les Républicains tient son Conseil national demain. Est-ce que Nicolas Sarkozy a réussi son pari de rénover l'UMP, Olivier Roucan ?
Il a réussi pour l'instant son pari. Rénover, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, puisque ce sont des termes valises, mais il a remis un peu d'ordre. Il a remis de l'ordre, les réunions fonctionnent, une communication s'organise, des événements qui ont une portée. La preuve en est que, dans le même temps, il ressoute des militants, des sympathisants, et ça se traduit dans les enquêtes d'opinion. Donc, il a réinsufflé une certaine dynamique qui fait que le moment de crise qui a duré entre UMP et les Républicains s'éloigne un peu. Dans tous les cas, dans la mémoire vive et instantanée.
Fillon, ouais.
Pour l'instant, voilà.
Bon.
Ceci étant dit, est-ce que les Républicains sont en passe de durablement se réformer, retrouver des militants et surtout clarifier ce qui est aujourd'hui la droite classique? Ça, c'est une autre question.
Et est-ce que Sarkozy peut s'imposer à l'occasion de cette primaire? Est-ce qu'elle est taillée sur mesure pour lui, comme le craignaient ses opposants, Frédéric Dabi?
Justement non, parce que la logique de la primaire, c'est que tout le monde peut voter. Bien sûr, tout le monde ne votera pas. Les gens de gauche seront une vraie minorité à aller voter. Ce qui était taillé pour lui, c'était le système de désignation classique. Nicolas Sarkozy, patron du parti Les Républicains, aurait dû être directement investi. Ce qui est vrai, c'est que Nicolas Sarkozy refait son retard ou plutôt retrouve une audience auprès de ce qui va être le cœur de cible de cette primaire du 20 et 27 novembre, à savoir les sympathisants des Républicains, où dans un sondage IFOP Atlantico diffusé ce jour, il repasse devant Alain Juppé, qui doit son succès global à son avance dans des électorats que j'appelle plus périphérique, gauche et centre. C'est très très ouvert en tout cas jusqu'au moment.
Alors il nous reste à peine 2 minutes, il faut absolument évoquer le Parti Socialiste. Voilà. Comment résiste-t-il à l'épreuve du pouvoir et est-ce que François Hollande sera son champion envers et contre tout? 40 secondes pour vous, Olivier Roucan.
Ah bah ça c'est facile. 40 secondes. Eh bien écoutez, François Hollande garde des possibilités d'éployer une stratégie. Les primaires, pour lui, ce n'est pas forcément un avantage, mais rien ne dit d'ailleurs qu'elles aient vraiment lieu, ces primaires. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Donc là, par contre, l'ordre n'est pas en place, et c'est la grande différence par rapport aux Républicains. C'est-à-dire que, pour l'instant, ce qui se passe autour du Parti Socialiste est d'un flou, j'allais presque dire, je ne sais pas s'il faut dire royal ou présidentiel, mais voilà.
Frédéric Dabi, il vous en reste 20. Vous.
20, c'est formidable. On est dans un temps d'incertitude majeure sur la situation politique. Malgré tout, il y a des invariants. Un François Hollande historiquement impopulaire et surtout qui a une situation de défi et de fracture vis-à-vis de sa majorité. Il est minoritaire chez les sympathisants de gauche, c'est une première fois.
Allez. À suivre, et on suivra ça avec vous, bien évidemment. On n'en dira pas plus ce soir, en tout cas. Merci à tous les deux. Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP, et Olivier Roucan, enseignant-chercheur en sciences politiques. Merci également à Florence Ponce, qui a préparé cette émission, et Fabrice Viollet, qui la réalise. Merci à vous, auditeurs, d'être fidèles à ce débat dernier de la saison. La prochaine de la rentrée, ce sera précisément le 29 août. Bonsoir à tous, restez à l'écoute. Un nouveau journal sur Radio France Internationale dans quelques secondes. We'll be right back.